Matin, on commence une nouvelle série. Vous pouvez tourner déjà avec nous dans le livre des Actes au chapitre 1. On commence une série qui va être courte, ça va être une série de 5 semaines, d'accord? Et c'est une série un peu différente de ce qu'on fait habituellement ici. En général, on va directement dans un livre de la Bible, soit qu'on le survole à toute vitesse comme on a fait pour Luc, en 11 exposés, on passe 24 chapitres. Soit qu'on s'allonge, on s'étire un petit peu plus longtemps. Mais dans ce cas-ci, on va se promener vraiment dans plein de passages dans les Écritures. Donc, ça ne sera pas une formule habituelle pour l'Église ici. Mais on veut prendre le temps de souligner, d'approfondir des valeurs importantes pour nous à l'Église de l'Espoir et importantes dans la foi chrétienne. En 2015, on a commencé à travailler 2 choses ensemble en particulier, la formation de disciples et l'accueil. C'est vraiment 2 valeurs ou 2 principes qui sont au cœur du christianisme, d'accord? Et donc, dans les 5 prochaines semaines, c'est de ça dont on va parler ensemble, afin de grandir un peu plus en Église dans ces 2 domaines-là. C'est des valeurs super importantes. L'approche qu'on va prendre va être particulière, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a déjà commencé à en parler l'année dernière, je voulais m'assurer qu'il y ait pour vous des nouveaux éléments de réflexion. Alors, on a invité 2 autres prédicateurs à se joindre à la série qui ne sont pas de l'Assemblée ici, d'accord? Juste pour avoir comme d'autres perspectives puis continuer à réfléchir ensemble. Donc, de mon côté, je vais prendre le côté un peu négatif. 7 semaines, puis dans 2 semaines, je parle des obstacles à la formation de disciples et à l'accueil selon Jésus. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus nous dirait? Quels sont les obstacles à la formation de disciples? On va parler de ça ce matin. La semaine prochaine, Steve Cloutier, certains d'entre vous le connaissez parce qu'il est un des fondateurs de l'effort J'aime mon voisin. Et donc, Steve va venir nous parler justement, pour lui, une église qui fait de la formation de disciples, c'est quoi? Et ça va être intéressant d'avoir justement une autre perspective, d'autres éléments pour réfléchir ensemble. Ensuite de ça, on va parler de l'accueil. Puis dans 3 semaines, dans le fond, dans 4 semaines, Richard Roule va venir nous parler une église qui accueille, qu'est-ce que c'est? Et puis on va terminer, pas avec nous, mais avec Dieu. Le Dieu qui accueille et qui forme. On va aller parler de ce Dieu-là qui est au-delà de l'église, dans son caractère, dans ce qu'il est comme personne. C'est un être qui nous accueille, puis c'est un être qui s'investit pour qu'on puisse être formé, qu'on puisse grandir. Donc, en gros, c'est ça qu'on va faire à travers la série. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur ces 2 valeurs-là? Ce sont 2 valeurs super importantes dans notre vision comme Église pour grandir. Mais ce sont des valeurs importantes pour toutes les Églises. Une assemblée a besoin d'être un lieu d'accueil. Mettez-vous dans la peau un instant. Là, ce matin, on est peut-être 300 personnes dans la salle, quelque chose comme ça. Mettez-vous dans la peau d'une personne qui déménage au Québec. Elle arrive de l'extérieur dans le monde. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui déménage dans la région de Longueuil. Déjà au Seigneur, connaît c'est quoi le christianisme, connaît la foi, déjà été dans une église, puis il se joint à l'Assemblée ici. Est-ce que l'Église a besoin d'être accueillante? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous accueillir quelqu'un? Serrer la pince le dimanche matin. Est-ce que cette personne-là a besoin de savoir qu'elle va trouver sa place ici, qu'elle a vraiment trouvé la famille de Dieu dans une autre région ailleurs, mais encore une fois, la famille de Dieu. Pensez aux gens qui se joignent à l'Assemblée et qui vivent toutes sortes de choses qui les amènent à se sentir seuls. Et Dieu sait que dans notre société, il y a tout l'espace pour se sentir seul, pour vivre de la solitude. D'accord? On est à l'époque où tout le monde est branché et connecté, puis c'est facile de vivre aussi l'isolement en même temps. On a besoin comme chrétiens d'une église qui accueille. On a besoin comme chrétiens d'une église, pour nous là, on a besoin d'une église qui forme des disciples. Parce qu'on veut voir ceux qui en viennent à connaître Jésus-Christ, à grandir dans leur foi. En fait, je suis certain que chacun d'entre vous, vous désirez avoir des gens qui s'investissent dans votre vie à vous pour vous aider à grandir. Chacun d'entre nous, on sent le besoin nous-mêmes de grandir davantage. Alors projetez ça sur toute l'Église. On a besoin d'une Église qui a le courage de s'investir dans la formation de disciples. On va parler de ça ce matin. Mais le Grand Longueuil, la Montérégie, 380 000 personnes, a besoin non seulement que notre Assemblée, mais que toutes les Églises qui connaissent l'Évangile, qui annoncent l'Évangile, qui prêchent les Saintes Écritures avec intégrité, vraiment, qui sont là, qui exposent dimanche après dimanche. Le Grand Longueuil, la Montérégie, a besoin d'églises évangéliques qui accueillent, qui sont des lieux d'accueil, des lieux où on peut trouver une famille. la Montérégie, le Grand Longueuil ont besoin d'églises qui s'investissent dans la formation de disciples, qui dépassent simplement le dimanche matin, la grande foule, tout ça, mais on va dans des relations plus intentionnelles, plus personnelles, où on s'investit dedans. Le besoin est énorme. Et donc, on veut grandir dans ce sens-là cette année. C'est ça notre objectif. Ce matin, on a demandé à Stéphane de nous lire un passage. J'ai dit, la série est différente. Il va nous lire un passage sur lequel je ne vais pas m'attarder. Un peu bizarre, hein? Mais c'est une belle introduction. Vous allez voir, c'est la suite. On vient de terminer Luc. On s'en va dans le livre des Actes. C'est une belle introduction sur la vision que Jésus avait lui-même d'une église qui allait bouleverser tout l'Empire romain avec la puissance de l'Évangile. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, le texte de ce matin va être dans le livre des Actes, comme Yannick l'a mentionné, au chapitre 1 et les versets 1 à 11. Je vais vous lire ça dans la nouvelle édition Genève. Actes, chapitre 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Merci Stéphane. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On va parler de formation de disciples, on va parler d'obstacles à la formation de disciples, mais Seigneur, on veut reconnaître en commençant ce matin que toi, Seigneur, tu as quitté la gloire de ton ciel. Tu es venu sur cette terre, tu t'es fait homme, tu as vécu parmi les hommes. Et tu t'es investi dans des hommes, dans des femmes, personnellement, individuellement. Tu t'adressais aux foules, mais tu rencontrais des gens que tu invitais à te suivre, Seigneur. Et tu t'investissais dans leur vie, Seigneur. Seigneur, après ta mort, après ta résurrection, tu as donné cette grande commission, ce grand mandat à ton Église, qui la porte depuis 2000 ans, Seigneur, annonçant l'Évangile à qui veut bien l'entendre, et enseignant à observer tout ce que tu as prescrit. Seigneur, ce matin, on commence cette série avec un défi devant nous. Je veux reconnaître, Seigneur, que c'est difficile pour des chrétiens, après quelques années de vie chrétienne, lorsqu'on mesure un peu mieux les défis pour soi à grandir, c'est difficile de s'investir et de te faire confiance, Seigneur, qu'on peut faire des disciples, qu'on peut s'investir en quelqu'un, qu'on peut les voir grandir, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur Jésus, je veux reconnaître ce matin que cette assemblée a été implantée, cette église a été implantée par des missionnaires qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté la France, qui sont venus ici, monsieur et madame Beau, avec une vision d'aller faire des Québécois des disciples. Et Seigneur, jusqu'à ce jour, ce témoignage tient ici. Des milliers de personnes sont passées par cette assemblée à travers toutes ces décennies, Seigneur. Plusieurs sont allés un peu partout, même dans le monde, Seigneur, comme missionnaires, pour aller faire de toutes les nations des disciples. Et notre prière, c'est que dans cette brève période de temps, Seigneur, qui nous est donnée à nous pour porter ce témoignage ici à Longueuil et peut-être ailleurs, tu nous fasses grandir, Seigneur. Tu nous donnes la foi de porter le message à notre tour. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on va commencer ce matin avec une définition de la formation de disciples, d'accord? Et puis, on y reviendra, mais on va placer des choses. Vous allez voir, c'est un petit peu plus pédagogique ce matin, peut-être. Puis, en même temps, on commence avec les obstacles. Alors, je suis conscient, je me préparais, puis je me disais, c'est quand même négatif un peu tout ça, parce que je parle des obstacles, d'accord? Alors, ça se peut que vous soyez un petit peu plus challengé ce matin qu'à l'habitude, mais je pense que c'est bon, on a besoin de ça. La formation de disciples est une relation intentionnelle dans laquelle on marche avec d'autres disciples de Jésus-Christ. Dans quel but? Pour les encourager, les équiper, les provoquer à grandir vers la stature parfaite de Christ et les aider à entrer dans la mission de faire des disciples. Je répète ça, longue définition. La formation de disciples est une relation intentionnelle dans laquelle on marche avec d'autres disciples de Jésus-Christ. Dans quel but? Pour les encourager, les équiper, les provoquer à grandir vers la stature parfaite de Jésus-Christ et les aider à entrer dans la mission de faire des disciples. En gros, c'est quoi? C'est prendre la décision de m'investir dans des vies autour de moi pour les aider à grandir dans leur foi. C'est le pas qui suit après avoir annoncé l'Évangile. Tu apprends à connaître Jésus-Christ, tu deviens chrétien, tu dis « Wow, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, un message que tous les êtres humains devraient entendre, devraient croire. » Puis tu commences tranquillement à parler un petit peu de Christ autour de toi, au travail, avec les amis, tout ça. Il y a des gens qui prennent une décision, décident de marcher avec Jésus-Christ, décident de se faire baptiser. Ça ne s'arrête pas là. On s'investit dans leur vie pour les voir grandir. Pensez à vos enfants si vous avez des enfants. Vous voulez vous prier pour vos enfants tous les jours, je suis certain, pour que vos enfants, un jour, fassent le choix personnel de donner leur vie à Jésus-Christ, de devenir chrétiens. Une fois qu'ils seront chrétiens, est-ce que ça s'arrête là? Mais non! Je veux les voir grandir dans leur foi. Je veux les voir devenir matures dans leur foi, d'accord? Bien, c'est ça, c'est la continuité, c'est de ça dont on est en train de parler. La formation de disciples dont on parle, ça se fait dans différents contextes, d'accord? Ça peut se faire dans des rencontres régulières. Je vais aller voir, moi j'irai voir 2-3 frères, puis je dis on va prendre un café ensemble aux 2 semaines, on va jaser ensemble une fois par semaine, on va lire des bouquins ensemble, on va échanger, on va rendre des comptes les uns aux autres, on va partager nos combats, nos luttes, nos difficultés. C'est ce qu'on appellerait chez nous ici du coaching, d'accord? Ça, c'est un contexte dans lequel ça peut se faire. Ça peut se faire dans des petits groupes de quartier, par exemple, où lorsque le petit groupe est très intentionnel, on prend le temps vraiment de partager des défis, prier les uns pour les autres, se challenger à grandir, on prend des nouvelles, on n'oublie pas les requêtes qui sont partagées. Ça serait de la formation de disciples aussi qui serait en train de se faire à cet endroit-là. Ou encore à la maison avec nos enfants, comme j'ai mentionné, dans la mesure où c'est intentionnel. Dans la mesure où j'ai comme mon programme que j'ai décidé, où on va ouvrir les Écritures avec les enfants, on va discuter ensemble, je vais être alerte, je prie pour mes enfants, pour des domaines où je vois que le Saint-Esprit est en train d'adresser des choses dans leur vie, Dieu leur parle, puis on dialogue là-dessus, puis il y a une intentionnalité à travers ça. C'est pas quelque chose de ponctuel, d'accidentel, mais c'est quelque chose d'intentionnel. Donc, ça peut prendre différentes formes, la formation de disciples, d'accord? Et dans un sens, on pourrait dire que tout ce que l'Église fait, tout ce qu'une Église locale fait, c'est de la formation de disciples. Que ce soit l'exposé biblique, que ce soit la louange où on s'assure d'avoir une louange vraiment qui expose les Écritures, qui nous aide à grandir dans notre appréciation de Dieu, c'est de la formation de disciples. Les cours bibliques le dimanche matin, c'est de la formation de disciples. Donc dans un sens, tout ce qu'on fait, même lorsqu'on est en train de servir, puis qu'on invite les gens à servir à la banque alimentaire, dans le bâtiment, à prendre des cours, à aider des gens, à aller visiter quelqu'un qui est malade à l'hôpital, c'est de la formation de disciples, d'accord? Mais ce qu'on veut parler ici, c'est quelque chose de plus spécifique. C'est lorsqu'intentionnellement, je décide de m'investir dans des vies, à travers des relations, parce que c'est ce qu'on voit dans la vie de Jésus, dans son ministère. Vous ne voyez pas seulement Jésus travailler avec la foule, même pas seulement avec la foule de ses disciples, mais vous le voyez s'investir dans quelques relations particulières. C'est ce qu'on voit chez l'apôtre Paul aussi, qui va s'investir dans des relations particulières, parce qu'il y a une proximité, là où on va aller vivre davantage les uns les autres, puis on va s'ouvrir, on va partager ensemble. C'est de ça dont on est en train de parler ici. Et le besoin est absolument énorme. D'accord? Moi, j'ai le privilège de participer à des conversations avec des pasteurs d'un peu partout dans le monde. Une fois par deux mois, je suis sur un appel avec des gens qui sont en Écosse, en Angleterre, en Afrique du Sud, un peu partout aux États-Unis, au Canada, puis on discute ensemble. Puis, à quelques reprises, je suis arrivé avec des questions. J'ai dit, OK, les gars, il faut que vous m'expliquiez comment vous faites la formation de disciples chez vous, comment ça se passe, comment les gens s'investissent dans les vies les uns des autres, puis s'accompagnent pour pouvoir grandir. Et chaque fois que je partage ce qu'on est en train de faire ici, à chaque fois, c'est arrivé. Les gars m'arrêtent, puis ils disent, OK, Yannick, il faut que tu nous expliques comment vous faites. Parce qu'on pense que vous avez plus à nous enseigner que nous, on a à vous enseigner. Si vous saviez c'est qui les gars qui sont autour de la table, au téléphone avec moi, là, c'est assez gênant de se faire dire ça. C'est des gens que j'estime énormément, qui sont plus sages, plus connaissants, plus expérimentés que moi. Mais donc, c'est juste pour dire que c'est un défi partout dans les églises. D'accord? Jeff Vanderstelt, un pasteur, auteur que j'aime beaucoup, a écrit dans son livre « Saturate ». Being disciples of Jesus in everyday stuff of life, être des disciples de Jésus-Christ à travers le train-train quotidien, on dirait au Québec, il écrit ceci. La plupart des chrétiens américains, alors lui, il œuvre à Seattle, sur la côte ouest américaine, la plupart des chrétiens américains croient encore qu'ils doivent amener leurs amis, écouter leurs pasteurs, enseigner la Bible et proclamer l'Évangile. Mais personne ne voudra jamais aller dans un rassemblement chrétien le dimanche pour entendre prêcher l'Évangile. Ça ne reflète pas notre époque. Si on doit annoncer l'Évangile, il va falloir que chacun des membres de l'Église s'investisse pour le faire, s'investisse dans la formation de disciples. Et ce que Jeff Vanderstelt est en train de raconter dans son livre, c'est justement un de ses amis qui est en train de s'impliquer avec lui dans son petit groupe en mission, Ray qui s'appelle. Il dit à Ray, ça fait combien d'années que tu es chrétien? X années, c'est un homme plus vieux que lui. Puis il dit, tu es capable de faire ça, de la formation de disciples? Ouvre ta Bible cette semaine, commence à lire les Écritures, regarde ce que Dieu te montre, puis partage-le avec quelqu'un, avec un frère dans la foi. Puis demande-lui qu'est-ce que Dieu lui montre. Mais Ray avait encore le réflexe de dire, moi, je vais parler un peu de Jésus, je vais amener les gens à l'église le dimanche matin, ils vont écouter le professionnel en avant sur le stage faire sa petite chanson. Si ça va bien, Saint-Esprit opère, on a une conversion. Ils vont aller faire des cours, on a des experts qui vont tous prendre ça en main. Si vous êtes des boomers, vous avez connu l'Église catholique, c'est pas, ça commence à ressembler au curé, ce modèle-là. D'accord? Ça commence à ressembler à ça, cette affaire-là. Très, très peu présent dans les Écritures. Alors, les pasteurs, ceux qui sont appelés avec un don d'enseignement ont un rôle particulier à jouer dans l'Église. D'enseigner la parole, c'est vrai, 100% d'accord. Mais les relations interpersonnelles où on va s'enseigner les uns les autres à travers des relations de proximité sont super importantes pour grandir dans la foi. Maintenant, la réalité, on la connaît. Si je faisais lever la main ici ce matin puis je vous demandais qui ici a eu le privilège, tôt dans sa vie chrétienne, d'avoir une personne qui s'est investie comme ça envers elle dans sa vie pour quelques mois, quelques années, pour l'accompagner, l'accompagner dans ses premiers pas dans la foi, pas simplement l'amener à des cours, mais le rencontrer, prendre des cafés, être redevable, se challenger, ouvrir les Écritures, tout ça, probablement que je n'aurais pas plus du tiers de l'Église qui pourrait lever la main, d'accord? Donc ça, c'est la réalité. Maintenant, on veut changer cette réalité-là, puis on veut se rapprocher des Écritures, puis on veut grandir ensemble. Alors, la question que je me suis posée à travers les dernières semaines, c'est la suivante. J'ai imaginé que Jésus vient de faire un miracle, des miracles, un paquet de miracles, puis là, il est en déplacement, puis j'ai imaginé qu'il y a un journaliste pour le Christianity Today qui l'intercepte, puis qui dit, « Jésus, j'ai une question pour vous. Vous qui savez tout, j'ai une question pour vous. » Puis il tend son micro, puis il dit, « Selon vous, Jésus, quels sont les plus grands obstacles à la formation de disciples? » Qu'est-ce que Jésus aurait répondu à cette question-là? Pas Yannick. Je donne un cours sur la formation de disciples. J'ai un paquet de réponses avec mon expérience, un paquet de réponses pratiques aussi. Mais qu'est-ce que Jésus aurait répondu à cette question-là? Puis je vais le résumer comme ça, d'accord? On va voir quatre obstacles ensemble ce matin, mais je vais le résumer comme ça. C'est ma conclusion. Vous avez déjà la conclusion du message. Les obstacles à la formation de disciples sont les mêmes obstacles que pour notre maturité chrétienne ou notre croissance vers la maturité. Parce qu'un disciple de Jésus cherche à faire des disciples de Jésus. Il y a plein de questions auxquelles je ne vais pas répondre à travers les exposés bibliques, mais je vais faire quelque chose de plus pour cette série-là. Je vais répondre à des questions sur le web, d'accord? Alors, soyez attentifs, on va les faire circuler avec le courriel de l'Église aussi, mais il y a des questions pratiques auxquelles je vais répondre à travers ça. Puis on va essayer de se concentrer davantage sur les principes à travers la série. 4 obstacles au coaching ou à la formation de disciples, je pense, selon Jésus. D'après moi, il y en aurait eu une dizaine, d'accord? Vous aurez sûrement d'autres idées. Le premier, prendre sa croix et le suivre. Si vous êtes familier avec les évangiles, si ça fait un bout de temps, vous êtes chrétien, vous connaissez la Bible assez bien, tout ça, puis vous posez la question, là. Qu'est-ce que Jésus répondrait à la question? C'est quoi les obstacles à la formation de disciples? On a comme un problème de catégorie. Parce que Jésus n'enseigne pas beaucoup sur comment on fait des disciples. Il enseigne c'est quoi être un disciple. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu as un problème de catégorie. Jésus ne répond pas directement à la question « comment on fait des disciples? » Il répond à la question « qu'est-ce que c'est un disciple? » Si toi, tu veux être un disciple, qu'est-ce que tu dois faire? Cette parole de Jésus, dans Matthieu 16, versets 24-25. « Alors Jésus dit à ses disciples, « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Retenez ça, « et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus répond beaucoup plus à la question c'est quoi un disciple de Jésus-Christ que comment on fait de la formation de disciples, d'accord? Mais Jésus a dit ceci aussi à ses disciples dans Matthieu 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, c'était pas encore des disciples, c'était comme les questions test, là. Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc Jésus a dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il soit prêt à renoncer à lui-même, se charger de sa croix puis me suivre. » À ses disciples, ceux qui sont en train de devenir ses disciples ici, il dit, « Suivez-moi. » Et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ma première question pour vous ce matin. Lorsque Jésus a dit ça à ces deux hommes-là, est-ce que c'est une parole qui était bonne seulement pour les 12 apôtres? Quand Jésus a dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », est-ce que cette parole-là que Jésus prononce, c'est bon juste pour les 12 apôtres? Évidemment pas, hein, parce que le mandat, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. D'accord? Donc, le mandat dure encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que... Moi, je suis un descendant apostolique. Je suis dans la lignée apostolique. Je ne suis pas un apôtre, mais je suis un pasteur. Tu sais, fait que, est-ce que c'est les pasteurs seulement qui sont appelés à être des pêcheurs d'hommes? Est-ce qu'un parent qui a des enfants chrétiens devrait voir ses enfants comme des personnes qui devraient recevoir l'Évangile? Est-ce qu'un chrétien qui habite dans un quartier devrait avoir à cœur son voisinage? Est-ce qu'un chrétien qui a un emploi devrait avoir à cœur ses collègues de travail? Voyez-vous, lorsqu'on va vers un passage comme celui-là, il y a une tentation pour nous de se dire, c'est comme une catégorie de professionnels. C'est un mandat pour des pros, d'accord? Et c'est très tentant pour nous de déplacer ça aujourd'hui dans l'Église, puis se dire, le mandat d'être pêcheur d'hommes, c'est pour ceux pour qui c'est facile de le faire, c'est pour ceux pour qui c'est facile de parler. Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous. Moi, premièrement, j'ai toujours eu une grande gueule, c'est vrai. Ça a toujours été extrêmement difficile pour moi de prêcher. Extrêmement difficile, d'accord? Donc, ce n'est pas vrai, ça. C'est facile. S'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est facile, dites-lui de se taire parce qu'il est dangereux. C'est un orgueilleux. D'accord? Mais la tentation est là pour nous de donner ça comme à des professionnels. Ah, lui, dans l'Église, tu sais, c'est un évangéliste. Dès qu'il rouvre la bouche, boum, hein, les gens ils acceptent le Seigneur. C'est à lui de faire ça. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces paroles-là ici nous donnent la définition, un élément de la définition de ce que c'est un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Jésus a à cœur le salut de tous les hommes. Quelqu'un qui suit Jésus prend ça sur son cœur, puis apprend progressivement à annoncer l'Évangile. Chacun avec nos dons, chacun avec nos talents, chacun avec nos forces, nos faiblesses, nos limites. Souvent, je vais dire, « Hey, j'aimerais ça que tu rencontres telle personne, il est plus compétent que moi dans tel domaine, puis je pense qu'il va t'aider à cheminer mieux que moi je pourrais le faire. » Donc, c'est un travail d'équipe, il n'y a pas de gêne à ça, il n'y a pas de problème avec ça. Si j'ai quelqu'un qui vient donner un témoignage, on va voir quelqu'un qui va venir vendredi saint, un invité. Je suis vraiment content qu'il vienne donner son témoignage de conversion ici, on va vous en parler bientôt. Mais définitivement, si je pouvais amener tout le monde, toute la terre à venir écouter son témoignage, je voudrais qu'il écoute, pas juste le mien. Mais moi, Dieu a fait de moi, parce que je suis chrétien, un pécheur d'hommes. Et si tu es chrétien, si tu es chrétienne, Dieu a fait de toi un pécheur d'hommes. Parce qu'il t'a donné un trésor extraordinaire dans ton cœur à partager. Ne pas saisir ça, c'est vivre encore dans l'Ancien Testament. Quand je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ce qui a changé avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint ne vient pas simplement sur les prophètes, sur les rois, sur les sacrificateurs. Le Saint-Esprit est donné à tous les croyants. Et les prophètes disent, vous serez des enseignants. Parce que vous allez avoir ça en vous. Et donc, je pense que le premier obstacle que Jésus nous dirait, c'est cette vision-là qu'il y a des professionnels, puis il y a les autres. Puis c'est cette difficulté-là, simplement à me charger de ma croix, puis à dire, je renonce à moi-même, j'ai suivi Jésus, maintenant je vais aller annoncer l'Évangile. Je vais aller faire des disciples. Je vais le faire avec mes quelques pains, mes quelques poissons, avec mes limites. Mais je vais grandir là-dedans, je vais apprendre à le faire. C'est pour ça que Paul va dire plus loin, par exemple, dans la lettre à Tite, que les dames âgées doivent enseigner les jeunes femmes. D'accord? Il n'a pas dit les dames âgées professionnelles. Les dames âgées doivent enseigner les jeunes femmes à être de bonnes épouses. Parce que tous les chrétiens sont appelés à le faire. Suivre Jésus, c'est devenir un pécheur d'homme. Lorsque je réfléchissais à cette question-là, quels sont les obstacles à la formation de disciples selon Jésus, le premier obstacle auquel j'ai pensé, c'est celui-là. Cette espèce de vision professionnelle que c'est un groupe restreint qui doit faire ça. Ça, c'est la première raison. Mais le plus grand obstacle auquel je pense Jésus dirait, que Jésus aurait identifié, j'ai appelé ça une crise de foi. Une crise de foi. Dans Jean 14, voici ce qu'on lit. Donc, deuxième obstacle, crise de foi. Jean 14, verset 11 à 14, je m'excuse. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Encore pour moi aujourd'hui, c'est un des passages de la Bible les plus difficiles à croire. D'accord? Je vous le confesse. Chaque fois que je lis ça, je dis, cette semaine-là, c'était ça qui venait. Je réfléchissais, j'essayais de voir. J'ai relu plein de livres sur la formation de disciples. J'essayais de voir qu'est-ce que Jésus répondrait. Puis ce passage-là s'imposait à mon esprit. Puis quand je le lis, je dis, oh, Seigneur, il ne faut pas que j'aille enseigner là-dessus. C'est un challenge pour ma foi, ce passage-là. Mais... ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que ceux qui allaient venir après lui allaient faire des œuvres même plus grandes que lui-même. Alors faisons juste un petit peu de ménage, vite, vite, vite. Je n'ai pas le temps d'aller à fond dans le passage. Je ne crois pas que Jésus est en train de dire ici que si lui avait fait 28 412 miracles pendant son ministère, chacun des chrétiens après allait en faire 42 300. D'accord? La raison simple pour ça, c'est que ce n'est pas la tendance qu'on voit dans le livre des Actes. À travers tout le livre des Actes, vous vous rappelez, Luc, on l'a dit, première partie, ministère de l'Esprit en Jésus, deuxième partie, ministère de l'Esprit à travers l'Église. C'est la continuité, on commence la mission. Qu'est-ce qui explose dans le livre des Actes? Bien, c'est que les chrétiens ont le Saint-Esprit. Les gens, les disciples de Jésus deviennent vraiment chrétiens par la nouvelle naissance, ont le Saint-Esprit, commencent à témoigner. Lorsqu'ils ne témoignent pas assez à Jérusalem, boum, Dieu envoie une persécution à Jérusalem, pouf, ils sont envoyés partout à travers tout le territoire, se mettent à témoigner. C'est ça que Luc dit. Lorsqu'ils étaient dispersés, ils allaient de village en village et chacun parlait de l'Évangile. Chacun annonçait l'Évangile. Et donc, ce qui explose après, c'est ce ministère-là où les gens connaissent Jésus-Christ personnellement, ont expérimenté la nouvelle naissance, vont parler de l'Évangile, vont aller faire des disciples de toutes les nations. Et ça, c'est beaucoup plus grand que pendant le ministère de Jésus. Si on avait à côté Jésus sur ses résultats, c'était pas fort. De son vivant sur la terre. Maintenant, c'est après que ça a explosé puis que l'Évangile s'est répandu à travers tout l'Empire romain et de plus en plus aux extrémités de la terre. Puis il y a des ressacs, il y a des moments où l'Église, l'Évangile disparaît pratiquement dans un pays, puis boum, il y a un renversement, ça revient encore, puis ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, d'accord? Mais c'est un défi de foi. Quand je parle avec quelqu'un, puis je dis, pourquoi, après tant d'années de vie chrétienne, tu n'es pas en train de t'investir pour faire des disciples? À chaque fois, ce que j'entends, à travers tous les mots que la personne va me dire, c'est le manque de foi. Le manque de foi en Dieu. C'est pas comme ça qu'on le dit. On dit, bien, si tu savais où je suis rendu dans ma vie chrétienne, je ne vois pas comment moi je pourrais le faire. Si tu croyais en Dieu, tu croirais qu'il va continuer à te faire grandir. Le problème, c'est un manque de foi en Dieu. Ah, mais j'ai essayé, je me suis investi dans des personnes, puis c'est dur, c'est décevant. Les gens sont décevants, puis ça fait mal. Puis si tu savais comment je me suis fait ramasser, je m'étais investi dans une relation, puis la personne s'est retirée. Ce manque de foi. Le manque de foi en Dieu. Est-ce que vous croyez profondément que vous avez reçu l'Esprit Saint de Dieu? Est-ce que vous croyez profondément que Dieu peut se servir de vous simplement pour annoncer l'Évangile à vos enfants? Quand j'étais en train de me préparer, la phrase qui me venait à l'esprit, c'est « Si tu es capable d'ouvrir une Bible avec des dessins avec ton enfant de 4-5 ans pour lui annoncer l'Évangile, par la grâce de Dieu, peut-être qu'il va accepter le Seigneur, peut-être pas. Plus tard, il accepte le Seigneur. Si tu es capable encore, quelques années plus tard, d'ouvrir la Bible pour jaser avec ton enfant de ce que c'est devenir un chrétien, tu es tout à fait apte à faire de la formation de disciples avec des adultes. Je peux te le garantir. Les différences sont très marginales. Tu es apte à faire de la formation de disciples. Mais je pense que le problème, c'est un manque de foi. On a de la difficulté à prendre Jésus au mot sur cette parole-là. Est-ce que vous croyez profondément que si quelqu'un suit Jésus, l'Esprit à travers lui va faire des œuvres plus grandes encore qu'à travers Jésus? Puis, si vous voulez être honnête, je pense que plusieurs d'entre vous, puis moi, souvent, je dis, Seigneur, tu n'es pas sérieux avec cette parole-là. C'est n'importe quoi ce que tu as écrit là. Parce que ça ne ressemble pas à ça ma vie aujourd'hui. Mais je peux pas fuir le texte, vous comprenez? Je ne peux pas juste faire comme si ce n'était pas là dans les Écritures. Je vais prendre mon incrédulité, puis je vais aller dans la prière. Je vais prendre mes doutes envers Dieu, puis je vais aller dans la prière, puis je vais dire, Seigneur, je veux grandir, je veux te ressembler. Et donc, je pense que le deuxième, selon moi, le plus grand obstacle même, mais un deuxième obstacle, c'est le manque de foi. On doute de nous, mais dans le fond, on doute de Dieu. Si vous dites, non, moi, j'y crois, bien, fonce. On donne le cours de formation de disciples, viens dimanche, pas dimanche prochain, on prend une pause l'autre dimanche. À 9h, sois ici, embarque dans le cours là où on est rendu. Joins-toi un petit groupe, commence à t'impliquer. Va, appelle quelqu'un que tu sais qu'il aurait besoin juste d'un café régulièrement, puis ou lire un livre chrétien ensemble, ouvrir la Bible ensemble. Fonce, fais-le! On va t'accompagner, on va te former, on va te coacher pour le faire. Puis tu vas apprendre à faire ça. Troisième obstacle, selon moi, mais c'est justement ça, c'est qu'on se tourne vers Dieu, puis on dit, OK, j'ai la foi, je vais foncer. Puis là, à un moment donné, dans le processus, on oublie quelque chose de fondamental. C'est que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Troisième obstacle, je l'ai appelé panne de puissance. Regardez bien ce que, rappelez-vous, dans le fond, on l'a vu tout dernièrement, la semaine dernière, dans Luc, ce que Jésus a dit à la fin de l'Évangile de Luc, Luc 24, verset 46. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Puis Jésus dit ceci, « Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Acte 1, 8, qu'on a lu tout à l'heure. mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au jour de ta conversion, lorsque tu as donné ton cœur à Christ puis tu as accepté le pardon en Jésus-Christ, tu as cru que tu recevais l'Esprit-Saint. Dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, tout probablement, tu as observé dans ta vie des changements, puis tu te dis, aïe, je ne suis plus tout seul. Puis dans ton cœur, s'est installée une conviction que tu n'étais plus seul sur la terre, mais que tu avais un Père céleste. Tu as commencé à prier, non plus Dieu, mais Papa, Père, mon Père, je sais que tu prends soin de moi, tu as donné ton Fils sur la croix pour moi. Cette conviction-là dans ton cœur, c'est une œuvre de l'Esprit en toi. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que ces gens-là, qui étaient des gens de rien, sans instruction pour la majorité, sans éducation, se sont tenus debout quelques semaines plus tard devant les autorités religieuses qui avaient livré Jésus aux Romains pour qu'il soit crucifié et sans crainte se tenaient debout devant eux puis les enseignaient, les reprenaient. C'était par la puissance de l'Esprit qu'Étienne a témoigné jusqu'à être mis à mort. Et alors qu'il était en train de le lapider pour le mettre à mort, c'est par la puissance de l'Esprit qu'Étienne a eu cette vision de Christ qui était debout à la droite du Père et qui a commencé à adorer alors qu'il était livré à la mort. C'est par la puissance de l'Esprit Saint que des chrétiens ont eu à cœur dans le livre des Actes de prendre soin les uns des autres puis de partager leurs biens, de mettre des choses en commun pour prendre soin les uns des autres. C'est par la puissance de l'Esprit Saint que des chrétiens ont accepté de continuer à se tenir debout pour le nom de Jésus-Christ lorsqu'ils étaient chassés de Jérusalem. C'est par la puissance de l'Esprit Saint que des églises ont été fondées, que des gens ont décidé de se tenir debout pour Jésus-Christ, même si ça voulait dire que ça ne serait pas bien, bien compris dans leur famille. Puis ils ont continué à prier, ils ont persévéré. C'est là, par la puissance de l'Esprit Saint qu'un frère comme Jean-Claude quitte cette vie avec le cœur en paix, rempli du Saint-Esprit, sachant qu'il s'en va dans la gloire auprès de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'une église décide de faire le pas de foi, chacun d'entre nous individuellement, d'ouvrir la bouche, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, puis s'investir dans la vie les uns des autres pour s'entraider à grandir dans notre foi, s'engager dans la formation de disciples. Et peut-être que vous dites, la puissance de l'Esprit, Yannick, ouais, peut-être que j'ai déjà vécu ça, mais je ne le vis pas. Les Écritures nous disent qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. On peut éteindre l'Esprit. Personnellement, je l'ai partagé souvent avec l'Assemblée. Comme pasteur, pendant que j'étais en train d'exercer mon ministère, il y a une période de mon ministère, ça a duré environ 3 ans, c'était le désert spirituel total. Total. J'arrivais le mercredi, je me crinquais comme un bon, je me plongeais dans les Écritures, je confessais tous mes péchés au Seigneur. Je disais, Seigneur, moi, je ne m'en vais pas raconter des histoires à cette église-là puis faire l'hypocrite, fait que t'es mieux de me donner un vrai message parce qu'il faut que je prêche dimanche. Et lundi matin, je me sentais complètement à sec. Aucun désir de prendre du temps avec Dieu. Il y avait des proches autour de moi, je leur partageais, ils priaient pour moi. C'est le désert. Dans ma vie, il y avait des choses qui attristaient le Saint-Esprit de Dieu. Puis j'étais pas dans une game d'hypocrite. Je les confessais à Dieu, mais c'était là comme des idoles grosses comme le monde qui étaient là. Il n'y avait pas de plénitude de l'Esprit dans ma vie, c'était des moments. Mais je ne marchais pas tous les jours en me levant le matin en disant, « Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie, je veux vivre pour toi. » Puis le soir en disant, « J'ai manqué là, je te demande pardon. J'ai manqué là, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous ceux dont je n'ai pas eu conscience aussi. Mais je veux vivre pour toi encore demain, Seigneur. Fait que je te remets ma nuit de sommeil, puis demain, c'est une autre journée. » Pendant des années, je n'ai pas vécu cela. Parce qu'il y avait des choses dans ma vie qui attristaient l'esprit. Et peut-être que c'est ça que tu vis. Ce n'est pas la vie chrétienne normale, ça. Si tu penses que ça, c'est la vie chrétienne normale, tu n'as pas les bons amis dans la foi, tu ne te tiens pas avec le bon monde puis tu ne rouvres pas ta Bible assez souvent. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est me repentir à tous les jours de mes péchés. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher dans la plénitude de l'Esprit. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi, conduis-moi, instruis-moi. Fais-moi grandir, Seigneur, avec des bons, des mauvais moments, avec des moments de recul, avec des moments où il y a des percées puis on avance. Et donc, peut-être que c'est là le défi pour toi. Peut-être que ton défi, c'est que tu as attristé l'esprit, puis tu es tombé dans un mensonge du diable qui te dit, « Ben, écoute, je pense que toi, là, il te tient par un fil, il a promis qu'il ne te lâcherait pas, fait qu'il va te draguer, il va te traîner jusqu'aux portes du ciel, tu vas passer bien juste, mon copain, on va se satisfaire de ça, OK? Au moins, tu n'iras pas en enfer. » Je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous, c'est ça que vous croyez pour de vrai. C'est comme ça que vous avancez dans la vie chrétienne. Dans le fond, là, vous ne le dites pas, mais c'est comme ça que vous voyez vous-même. Et probablement que le premier pas à faire, c'est de vous arrêter cet après-midi, ce soir, cette semaine, prendre un temps à l'écart, prendre un calepin, commencer avec une prière. « Seigneur, montre-moi les idoles dans ma vie » puis commencer à faire une liste. Deuxième étape, vous appelez un ami. Vous lui dites, j'ai quelque chose de pas cool à te partager. As-tu du temps pour moi? Partagez vos idoles. Confessez vos péchés. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide afin d'expérimenter vraiment la repentance et de retrouver la plénitude de l'Esprit. Marchez par la puissance de l'Esprit. Un des obstacles à la formation de disciples, c'est cette panne de puissance. Et je termine avec le dernier. J'appelais ça des pousses tardives. Celui-là, je suis allé le chercher ailleurs un petit peu, avec l'apôtre Paul, puis dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. Voici ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 5, verset 11. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Parle à des chrétiens. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, de la révélation de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, les femmes, fait mature, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne parle pas fondamentalement ici de grandes doctrines, autant que de comprendre les Écritures et de vivre à la lumière des Écritures. Ça va être ma dernière question culpabilisante en mort ce matin. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien d'années que tu lis la Bible? Ça fait combien d'années que tu prends des cours bibliques? Un autre cours, je veux des crédits, un autre cours. Une église de Bible ici, un autre cours, on va y arriver. Ça fait combien d'années? Vous devriez tous être des maîtres. On l'a dit. Peut-être que personne ne vous l'a montré. On l'a dit. Il faut charger notre croix, c'est un sacrifice de décider de le faire. On l'a dit, ça demande la foi. On l'a dit, il faut s'appuyer sur la puissance de l'Esprit-Saint. Peut-être que c'est là, peut-être que votre premier pas à faire, c'est de dire, OK, c'est le temps que je mette de côté l'enfance spirituelle puis que je devienne un adulte. Je vais ouvrir ma Bible à tous les jours en faisant simplement une prière, en disant, Seigneur, fais-moi grandir. Je vais appliquer ta parole dans ma vie, puis le peu que je comprends et que je sais, je vais le partager autour de moi. Je vais commencer là. Personnellement, je me suis converti, puis après un an, je suis allé voir le pasteur, puis j'ai dit, moi, je voudrais prendre votre place, M. Hull. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Fait que vous comprenez qu'en rentrant dans le ministère assez tôt, je me suis souvent retrouvé devant des gens que j'estimais être plus sages, plus intelligents, plus connaissants puis plus expérimentés que moi. Mais j'ai appris à travers les années que c'est en faisant un pas pour m'investir dans la vie d'autres personnes que moi-même je grandis le plus. Et donc le fait de ne pas m'être retiré, replié sur moi-même, mais de m'investir dans la vie de gens autour de moi, j'estime que c'est une des plus grandes bénédictions de ma croissance spirituelle à moi. Fait que si vous dites, Yannick, je suis encore aux lettres, tu as raison, tu viendras me revoir dans 5 ans, pourquoi pas ouvrir la Bible avec un frère qui est encore aux lettres aussi? Puis, regarde, on va étudier les Écritures ensemble et on va grandir ensemble. La bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est que Dieu va le faire en vous. L'apôtre Paul, qui était super expérimenté avec les églises, qui en avait vu des belles, des moins belles, il avait vu des milliers de chrétiens avancer à travers la vie, ralentir, reculer, partir, revenir, a dit dans la lettre aux Philippiens, « J'ai la conviction et je sais qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en vous. » Mais moi, j'ai le privilège, comme plusieurs des anciens à l'Église ici, plusieurs d'entre vous, d'être ici depuis des années et de voir cette Église-là grandir en maturité. J'ai cette conviction profonde dans mon cœur que Dieu va continuer à nous faire grandir comme Église. Les obstacles qu'on a parlé ce matin, les quatre obstacles qu'on a parlé ce matin, être prêt à me charger de ma croix, suivre Jésus tout simplement, avoir la foi qui veut m'amener à faire de grandes œuvres parce que son Esprit est en moi, ne pas le faire par mes propres forces, mais m'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Quoi notre dernière encore? Grandir en maturité, ne pas rester des enfants dans la foi. Ces quatre obstacles-là, c'est des obstacles pour devenir un chrétien mature, tout simplement. Ce n'est pas des obstacles seulement à la formation de disciples. Si vous les prenez les quatre, vous devez grandir dans ces quatre domaines-là pour devenir des chrétiens plus matures. Absolument. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Christ s'est engagé à le faire envers vous. À travers la série, on va parler d'obstacles, puis on va essayer de rafraîchir votre vision. La semaine prochaine, Steve Cloutier va venir nous parler d'une église qui fait des disciples. À travers cette année, on va vous présenter des opportunités. Déjà cet après-midi à la réunion, je vais vous présenter une liste pour ceux qui vont être avec nous, puis dans les prochaines semaines, un dimanche, on va vous présenter des listes d'opportunités à travers l'année pour vous engager dans la formation de disciples, pour vous engager dans l'accueil, pour grandir dans ces domaines-là. Des opportunités individuelles, puis des opportunités en groupe. Alors voici ce que je vous demande de faire ce matin, alors qu'on commence l'année 2016, puis qu'on veut grandir ensemble. Je vous demande de commencer à prier. Priez avec ces obstacles-là cette semaine. Placez-les devant Dieu. Interrogez Dieu afin qu'il vous aide à sonder votre cœur pour voir s'il y a certains de ces obstacles-là qui sont vraiment présents dans votre vie. Puis commencez à demander à Dieu, comment est-ce que tu veux que je m'implique dans la formation de disciples? C'est quoi mon rôle à moi dans l'Église? C'est qui les gens en qui je pourrais m'engager pour pouvoir faire de la formation de disciples? Puis on va grandir ensemble. Puis le Seigneur va nous faire grandir ensemble. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Puis la Montérégie, Longueuil en a besoin. Puis chacune des nouvelles personnes qui joignent à l'Église ici ont besoin d'une Église qui accueille et qui forme des disciples. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, encore une fois, je veux t'adorer parce que toi, tu n'as pas eu peur de t'engager envers nous. Tu n'as pas eu peur de quitter ton ciel, tu n'as pas eu peur de venir sur la terre, tu n'as pas eu peur de venir t'engager envers des gens qui allaient te décevoir, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu accomplir une œuvre unique que je n'ai pas à faire moi comme coach, que tu n'attends pas de moi. Tu es venu t'offrir en sacrifice sur la croix pour nos péchés, Seigneur, pour mes péchés. Et Seigneur, j'ai appris dans l'Évangile que je ne peux rien apporter de bon, que toi seul tu es bon, Seigneur. J'ai appris dans l'Évangile, Seigneur, que tu m'accueilles non pas pour ce que je vais faire, non pas pour ce que je suis, mais simplement parce que je crois dans ton sacrifice à la croix, Seigneur. J'ai appris dans l'Évangile que tu as fait de moi ton enfant et que tu t'es engagé à me faire grandir à l'image de Christ, simplement en vertu de la grâce, de ton amour, Seigneur, pas de mes performances. Alors ce matin, Seigneur, alors qu'on commence cette série et qu'on veut grandir ensemble, Père, on veut t'apporter cette vision, ce mandat que tu nous as donné, d'aller faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. On veut te l'apporter parce qu'on ne peut pas le prendre sur nos épaules comme si ça se faisait par nous-mêmes, par nos propres forces, Seigneur. On veut te l'apporter parce qu'on veut confesser, Seigneur, notre manque d'engagement, notre manque de zèle, notre manque de dévouement, notre manque de foi, Seigneur. On veut te confesser, Seigneur, qu'on s'est peut-être retiré, on a arrêté de croire que tu peux te servir de nous pour aider des gens à grandir dans la foi. Seigneur, on veut invoquer ta grâce, ton pardon. Parce que c'est seulement par ta grâce qu'on va pouvoir grandir comme Église, qu'on va pouvoir accueillir et faire des disciples de Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous prions, Père. Amen.